France Inter, Léa Salamé, Nicolas Demorand. Le 7-9.
Bienvenue sur France Inter, bonjour à tous. Nous sommes le jeudi 11 mars. Bonjour Agnès Soubiran.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, le débat relancé sur le droit à mourir dans la dignité. Plusieurs propositions de loi concernant la fin de vie signées par 250 parlementaires vont être discutées dans les prochaines semaines. La première dès aujourd'hui au Sénat. Témoignages et analyses dès le début du journal après les autres titres, Agnès.
La catastrophe de Fukushima il y a tout juste 10 ans a-t-elle fait reculer la part du nucléaire dans le monde ? Le stade Vélodrome transformé en vaccinodrome, c'est à Marseille bien sûr. Un nouveau point Covid ce soir à 18h, mais c'est peut-être l'un des derniers. Maxence Lambrecq nous dira pourquoi. Charente-Maritime et Gironde, départements les plus gros consommateurs de pesticides selon Génération Future. Et puis si le PSG est en quart de finale de la Ligue des Champions, c'est grâce à lui. Keylor Navas, un gardien de but en or.
Les invités d'Inter ce matin à 7h50, Léa.
Un ministre français qui voulait symboliquement entrer dans une zone anti-LGBT+ en Pologne et il n'a pas pu le faire. Il nous explique ce qui s'est passé vraiment. Clément Beaune, le secrétaire d'État aux Affaires européennes, sera avec nous à 7h50.
Et à 8h20, Léa, on se retrouve pour le grand entretien de la matinale avec la chef économiste de l'OCDE, Organisation de coopération et de développement économique. J'ai nommé Laurence Boone. Vos questions 01 45 24 7000, le standard vous attend.
France Inter.
On meurt mal en France. C'est un constat partagé par de plus en plus d'élus de tous bords qui tentent de relancer le débat sur la fin de vie avant la prochaine élection présidentielle. Plusieurs propositions de loi sont à l'agenda dans les mois qui viennent, dont une débattue aujourd'hui au Sénat. Un texte qui vise à autoriser le suicide assisté pour les personnes souffrant de maladies incurables. La loi aujourd'hui ne le permet pas, mais un vaste consensus citoyen et politique est à l'œuvre. Laurence Perron.
Il y a urgence à légiférer, estime Marie-Pierre de la Gontrie, sénatrice PS, initiatrice du texte.
L'Association pour le droit de mourir dans la dignité, qui milite sur ce sujet, elle a été créée en 1980.
6 propositions de loi, signées déjà par plus de 250 parlementaires, allant des LR à la France Insoumise, sont en ce moment sur le point d'être discutées. La prochaine arrive en avril à l'Assemblée nationale. Elle est portée par le groupe Liberté et Territoire, auquel s'est associé le député La République En Marche, Jean-Louis Touraine, professeur de médecine.
Nous voulons en même temps donner la possibilité à ceux qui veulent attendre la fin naturelle que ça soit respecté et en même temps donner la possibilité à ceux qui veulent être dispensés d'une agonie qu'ils jugent trop pénible de pouvoir recevoir l'administration d'un produit qui les dispense de cette agonie pénible.
Alors qu'en pense le gouvernement ? Marie-Pierre de la Gontrie encore.
J'espère que nous n'aurons pas une réponse en faux fuyant et que nous aurons un ministre soit qui approuvera, soit qui dira avec courage qu'il est contre.
Et de fait, en 2018, une tribune initiée par Jean-Louis Touraine avait recueilli les signatures de 6 personnalités, aujourd'hui ministres, Olivier Dussopt, Brigitte Bourguignon ou encore Adrien Taquet. Le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, a réaffirmé en début d'année qu'il voulait aussi aller plus loin sur le choix de la fin de vie.
Hasard du calendrier, ce débat sur la fin de vie intervient quelques jours après la mort de Paulette Guinchard. Cette ancienne secrétaire d'État aux personnes âgées souffrait d'une maladie dégénérative. À 71 ans, elle a choisi d'aller en Suisse, où le suicide assisté est autorisé. Son amie, Marie-Guide Dufay, présidente socialiste de Bourgogne-Franche-Comté, témoigne de sa souffrance et de son choix au micro d'Hélène Chevalier.
Paulette a souffert terriblement d'une maladie extrêmement invalidante qui paralyse le corps, qui empêche de marcher, qui empêche de parler, alors qu'elle avait toute sa tête, son intelligence était intacte, mais totalement enfermée dans un corps qu'il abandonnait. Et elle a dit qu'elle voulait plus continuer, d'autant plus qu'elle savait que ça serait de mal en pis, puisqu'elle avait vu et sa grand-mère et son père avoir cette terrible maladie dégénérative du cervelet. Donc, elle aurait voulu en finir en France. Mais ça n'a pas été possible et c'est pour cela qu'elle a pris des contacts avec la Suisse pour pouvoir s'inscrire dans cette démarche de suicide assisté.
Le suicide assisté est en effet autorisé aujourd'hui aux Pays-Bas, en Belgique, au Luxembourg et en Suisse. Le Parlement portugais a voté fin janvier une loi autorisant la mort médicalement assistée. La dignité, c'est d'écouter la souffrance. Dossier à retrouver sur franceinter.fr.
Il est 7h05, Agnès. Il y a 10 ans, la catastrophe nucléaire de Fukushima.
Un séisme d'abord au large du Japon, puis un tsunami phénoménal qui ravage la côte nord-est de l'archipel et l'explosion de la centrale nucléaire. Le bilan est terrible. Plus de 18 500 morts le 11 mars 2000. 2011, plus de 2000 décès dans les semaines suivantes et 160 000 personnes obligées d'abandonner leur maison. Une région rayée de la carte où les travaux se poursuivent aujourd'hui en attendant un hypothétique retour des habitants. 10 ans après la catastrophe de Fukushima, a-t-elle accéléré la sortie du nucléaire? Où en est-on sur cette énergie décarbonée, mais non sans conséquences pour la planète? Élément de réponse avec Delphine Simon.
Avec 53 réacteurs en construction dans une vingtaine de pays et 63 mis en service, le nucléaire ne recule pas. La capacité installée dans le monde a même augmenté, plus 20 gigawatts depuis 2009, de quoi alimenter 20 fois la population d'une ville comme Nantes. La sortie de l'atome est actée dans 6 pays, dont l'Allemagne, la Belgique ou l'Espagne. 10 autres font le choix inverse, car la course climatique pour la neutralité carbone réveille de nouveaux appétits pour l'atome en Chine, mais aussi en Russie, où poussent 80% des nouvelles installations. Dans les pays émergents, les Émirats arabes unis ou l'Égypte, il y a des projets, à l'inverse de l'Europe, où les opinions publiques sont hostiles et les financements difficiles à trouver. Ici aussi, on sent malgré tout un frémissement d'intérêt pour l'atome. Pour sortir du charbon, la Pologne veut construire 4 réacteurs. Entre la technologie américaine et les EPR d'EDF, une décision est attendue dans les prochains mois.
Et nous reviendrons sur le lieu de la catastrophe de Fukushima dans le journal de 7h30. Bientôt un nouveau vaccin dans la besace des médecins. L'Agence européenne du médicament devrait délivrer aujourd'hui son autorisation pour le vaccin américain Johnson & Johnson. 55 millions de doses attendues dans l'Union européenne au deuxième trimestre. De quoi accélérer la campagne en France. Et à Marseille, c'est un lieu emblématique qui a été choisi pour vacciner à tour de bras, le Stade Vélodrome. Laurine Benjibria.
Il s'agira du plus gros centre de vaccination de Marseille, 500 injections par jour au début et jusqu'à 1500 ensuite. Une nouvelle saluée par Julien Carvelli, médecin réanimateur aux urgences de l'hôpital de la Timone.
On est dans une période de guerre sanitaire, où il faut mettre les plus grands moyens possibles à notre disposition pour vacciner en masse. Donc je me suis dit que les efforts étaient à la hauteur de l'enjeu.
Car les Bouches-du-Rhône font partie des départements sous surveillance renforcée. Plus de 92% des lits de réanimation occupés par des patients Covid. Alors vacciner un plus grand nombre pourrait, à terme, soulager le service de Julien Carvelli.
Nos services sont à flux tendu. Là, on est sur un plateau entre 70 et 80 personnes hospitalisées en réanimation. Ce qu'on espère, c'est que dans les semaines et mois qui viennent, il y a 7 personnes vaccinées, notamment à 7 personnes fragiles, susceptibles de faire des formes graves, qui soient vaccinées. Comme ça, on aura moins d'admissions à l'hôpital, moins d'admissions en réanimation.
D'où l'importance et la portée symbolique de ce futur vaccinodrome.
C'est très important que tous les acteurs du pays, je pense les sportifs, toutes les personnalités du monde intellectuel, tirent tout le monde en avant vers la vaccination. De voir le Vélodrome impliqué dans la bataille vaccinale, c'est un très bon point.
L'OM n'en est pas sa première action de solidarité depuis le début de l'épidémie, son centre d'entraînement transformé en avril dernier en centre d'hébergement pour les victimes de violences intrafamiliales.
Un confinement prolongé ce week-end dans 63 communes du littoral méditerranéen de Théoule à Menton, en passant par Grasse, Vence et Nice. Décision prise hier lors du Conseil de défense sanitaire et annoncée avant même la conférence de presse de ce soir. Traditionnel rendez-vous du jeudi 18h. Un rituel avec ses codes, présence ou pas du Premier ministre. Ce soir, ce sera 100 Jean Castex, et un rituel qui commence à en agacer certains. Maxence Lambrecq.
Mes chers concitoyens, mesdames et messieurs,
les audiences diminuent de jeudi en jeudi.
Comme chaque semaine, nous nous retrouvons pour faire ensemble un point.
Les Français ont l'impression d'entendre toujours la même chose, admet un conseiller de l'exécutif. Castex n'est pas le meilleur des animateurs, lâche un marcheur, et les médias dévoilent l'essentiel avant sa prise de parole, ajoute un autre.
Je vous l'ai dit jeudi dernier.
Le rituel rassure autant qu'il enferme, analyse un communicant du pouvoir qui aimerait vite abandonner l'exercice. À l'Élysée, on s'interroge aussi sur l'ampleur des séquences Covid. Du mardi, veille de conseil de défense, au jeudi soir, voire vendredi matin, l'agenda médiatique est bloqué, se désole un proche d'Emmanuel Macron. Impossible de faire passer un autre message. Il nous reste le week-end, sourit-on à Matignon. Et d'ailleurs, Jean Castex sera dimanche soir en direct sur la plateforme Twitch. Le temps laissé entre la réunion à l'Élysée et la conférence de presse est indispensable, plaide au contraire un ministre. On peut ainsi annoncer les nouvelles restrictions et les dispositifs d'aide qui vont avec. C'est un temps d'ajustement, de concertation, mais un consensus se dessine. Quand la vie un peu plus normale reprendra, il faudra changer de format, sortir de ce rituel synonyme de mauvaise nouvelle.
Maxence Lambrecq. Emmanuel Macron se rendra lui aujourd'hui à Dammartin-en-Goël, dans l'imprimerie de Michel Catalano, pris en otage lors des attentats de janvier 2015. Ce 11 mars est la journée d'hommage aux victimes du terrorisme. Le chef de l'État déposera auparavant une gerbe aux Invalides. Nous y reviendrons dans le journal de 8h. Les deux adolescents de 15 ans, soupçonnés d'avoir frappé et poussé dans la Seine Alisha à Argenteuil lundi après-midi, ont été mis en examen hier soir pour assassinat. La préméditation a été retenue. La victime a été attirée dans un véritable guet-apens, a dit hier le procureur de la République. Un déchaînement de violence pour des futilités entre adolescents d'une même classe sans antécédent judiciaire.
Il est 7h10. Vivez-vous dans un département gros consommateur de pesticides?
Pour le savoir, un simple clic sur le site de l'association Génération Future qui dresse ce matin la carte des plus gros acheteurs de glyphosate et autres produits de ce type. Et en tête du classement, la Charente-Maritime et la Gironde. Les précisions de Pauline Pénanec.
241 tonnes achetées en 2019. La Charente-Maritime est de loin le plus gros acheteur de glyphosate. Juste derrière la Gironde, 185 tonnes. Puis la Marne, la Charente et le Lot-et-Garonne. L'association dresse une carte des plus gros acheteurs de pesticides. Pour cela, elle se base sur des données publiques. Numéro 1, la Gironde, plus de 3000 tonnes de produits achetés. Le Loiret figure aussi dans le classement où l'huile de colza est utilisée contre les pucerons. L'ONG remarque aussi l'utilisation de produits en agriculture biologique comme le soufre ou le cuivre. Les départements viticoles sont bien représentés, reconnaît Génération Future. L'usage des pesticides dépend aussi du type de culture et des conditions climatiques. Des chiffres en quantité sans doute inférieure à la consommation réelle selon l'ONG. Certains achats ont été effectués fin 2018 pour anticiper la hausse de la redevance pour pollution diffuse entrée en vigueur le 1er janvier 2019.
On s'inquiétait de l'absence de Neymar, attendait la prestation de Mbappé et c'est Keylor Navas qui a offert au PSG sa qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Le gardien de but recruté en 2019 a été l'homme du match hier soir au Parc des Princes, permettant aux Parisiens de limiter les dégâts. Score final, un partout, Alexandre Vaux.
Le gardien du PSG a signé 9 arrêts décisifs hier soir, dont 8 rien qu'en première mi-temps. Keylor Navas n'a été battu qu'une fois sur une frappe magistrale de Lionel Messi avant d'arrêter le pénalty du meilleur joueur du monde juste avant la mi-temps. Le tournant du match, d'où l'hommage de son entraîneur Mauricio Pochettino.
Il a fait un partido enorme, la verdad que.
Ah, il a fait un match énorme. Il a
des actions qui parlent de la qualité, qui est un top.
Il y a des actions
qui
montrent sa qualité. C'est un top gardien mondial et ça s'est vu ce soir.
À 34 ans et avec déjà 3 Ligues des Champions à son palmarès, l'expérimenté gardien costaricain est le joueur qu'il manquait au PSG pour prétendre à la victoire finale, selon le consultant foot de Radio France et ancien gardien Jérôme Alonso.
C'est beaucoup de points gagnés depuis qu'il est arrivé. Et encore une fois, c'est une influence psychologique incroyable sur le groupe. Et j'ai entièrement confiance en lui parce que pour moi, qui était gardien de but, je suis admiratif. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup d'affection pour ce joueur.
Un joueur qui a du cœur, dédiant son pénalty arrêté à son coéquipier, le gardien Sergio Rico, remplaçant hier soir malgré la mort de son père.
Une qualification également hier soir de Liverpool et le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions aura lieu dans 8 jours.
Merci Agnès Soubiran. Dans 3 minutes, suite de notre série de Zoom spéciaux, 1 an de Covid, ce matin avec les pompes funèbres.